Merci à l'équipe de louanges tout à l'heure aussi. Je trouvais que dans les chants que vous avez choisis, il y avait des paroles qui étaient tellement riches, qui étaient tellement profondes. Puis c'est tellement bon de louer Dieu. Hein, vous arrêtez. Hein, moi j'ai été béni ce matin parce que j'habite un petit village, Pompigny, en dessus de Morges. Puis je suis monté là, on se sentait plus proche du Seigneur, plus je montais. Ben, la neige, fantastique, la chaleur humaine ici, les frères et sœurs. J'ai découvert l'évangile quand j'avais l'âge de 25 ans. Avec un arrière-plan catholique d'éducation. Et puis, je pense que j'ai toujours cru en Dieu. Mais la formule que j'ai trouvée, qui est pas mal à mes yeux, c'est de dire, je croyais en Dieu, mais je ne croyais pas Dieu. Pas si vous voyez la nuance. Je croyais en Dieu, mais je ne croyais pas Dieu. Pourquoi? Parce que j'avais jamais lu la Bible. Alors c'est difficile. Mais c'était déjà bien que je croyais en Dieu. Hein. Mais tout d'un coup, quand Dieu m'a interpellé au niveau de la parole, là, j'ai réagi. Hein. J'avais pas trop envie parce que je me rendais compte le prix qu'il fallait payer. À la fois, j'étais attiré par Jésus, son amour, puis en même temps, j'ai tout ce que je devais abandonner dans ma vie, ou les luttes, les combats. Alors, c'est un peu le thème de ce que je vais vous partager. Ce matin, c'est-à-dire qu'en Suisse, on a aussi des luttes et des combats. Pourquoi? Parce que si on diffuse une bonne odeur de Christ dans nos cœurs, apparemment, on devrait se dire, oh, mais tout le monde va se précipiter vers nous pour dire, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? C'est magnifique, mais dis-nous, tu as un secret, il y a un trésor, on en veut de ce trésor. C'est comme ça que ça se passe à la Chaux-de-Fonds. Hein, j'ai un ami, on a eu un ami, il y a 40 ans qu'on a rencontré cet ami. C'était un Québécois qui est venu pour une œuvre chrétienne travailler en France, puis après il est allé en Afrique. Et il nous avait dit ceci qui était délicieux. Il a dit, en France, les gens me disent, mais pourquoi on devrait être sauvé? Et après je suis allé en Afrique, les Africains disaient, mais comment on peut être sauvé? Comment on peut être sauvé? Oh, oh là là, l'opposition, la persécution, voilà. Donc, l'évangile est une bonne nouvelle, extraordinaire, découvrir Jésus, ce roi qui nous a sauvés de nos péchés, avoir l'assurance du salut, etc., de l'éternité. Mais Jésus n'a jamais caché aussi que ceux qui le suivraient fidèlement seraient persécutés. Alors, il y a... En fait, depuis que j'ai un peu plus été interpellé par ce domaine de la persécution, j'ai relu une fois toute ma Bible en disant, mais où est-ce qu'on parle de la persécution? Il semble qu'il y a un psaume 61 qui a été lu tout à l'heure, on en parle déjà dans l'Ancien Testament, mais ah oui, si vous réfléchissez un petit peu, par exemple, Joseph, est-ce qu'il a été maltraité? Et par qui? Par ses étrangers païens? Ses frangins? Waouh! Hein, il y a beaucoup de textes dans l'Ancien Testament où il y a des persécutions. David, qui aimait tellement son Seigneur, qui louait son Dieu au sein du peuple d'Israël, il a aussi été malmené. Alors, dans le Nouveau Testament, finalement, on découvre aussi ces dimensions. Sauf qu'elles ne restent pas confinées à Israël, mais elles s'étendent à tout l'univers, on peut dire à toute la terre. L'opposition, la persécution, c'est quelque chose qu'on peut aussi vivre ici. On va cliquer. J'ai lu un livre passionnant. Il a juste un petit problème, il a 800 pages, mais... je vous ai dit, portes ouvertes, surtout liste des 50 pays où il y a le plus de persécution. Et vous avez... la possibilité aujourd'hui de prendre une petite brochure comme ça, et c'est des feuillets de prière, chaque mois, vous les recevez. D'accord. Dans ce livre, ce qui m'a intéressé, c'est la persécution des chrétiens vue surtout avec un regard des églises historiques. D'abord, les églises orthodoxes, hein, au Proche-Orient. C'est l'Église orthodoxe qui est dominante, mais aussi de l'Église catholique et de l'Église protestante. Et vous savez combien il y a de pays dans le monde? 250, oui. Officiellement, il y a 193 pays dans le monde, des États indépendants. Bon, bref, mais disons 200 pays dans le monde. Et dans ce livre, ils disent que dans 130 pays, il y a vraiment des difficultés pour les chrétiens. Ce n'est pas anodin. Il y a beaucoup de discrimination sans que ça aille jusqu'à la prison ou à la mort, à la mise à mort. Mais cette discrimination, on peut la ressentir de plus en plus aussi en Europe et en Suisse. J'ai beaucoup aimé cette phrase d'un chrétien chinois que des Occidentaux visitaient, où il leur posait la question, mais est-ce que vous êtes persécutés en Occident? Oh non, nous, on n'est pas persécutés. Ah bon? Vous n'êtes pas persécutés, mais est-ce que vous avez vraiment accepté Jésus dans vos cœurs? Est-ce que vous êtes vraiment bouillant pour le Seigneur ou bien est-ce que vous êtes tiède? Parce que si vous êtes tiède, c'est clair, vous n'aurez pas beaucoup d'oppression. Si vous êtes caméléon, hein? Mais si réellement Jésus vit en vous, inéluctablement vous serez confronté à de l'opposition, à des combats spirituels particuliers. Et il a dit cette phrase que je trouve très importante. Nous sommes assis, comme chrétiens ou que nous habitions, tous sur la même branche. Mais nous ne sommes pas assis sur les mêmes épines. Hein? On est tous assis sur la même branche. Si on est vraiment chrétien engagé, il y aura de l'opposition. Voire parfois de la persécution dans certaines familles. Notamment si on est d'arrière-plan musulman et qu'on déclare notre foi en Jésus-Christ comme Seigneur, ben, ce serait très difficile pour des juifs aussi. Et qui veulent reconnaître Jésus comme Messie, il y aura beaucoup d'opposition. Il y avait ce pasteur Maurice Ray, que vous avez peut-être aussi connu, qui a certainement visité la Chaux-de-Fonds à l'époque, qui, il y a 50 ans en arrière, disait une des oppressions, une des oppositions, où lui-même parlait de persécution des chrétiens, ici, il disait, c'est l'indifférence dans laquelle on baigne. Vous aimez tellement le Seigneur, vous aimez les gens. Dieu a mis par le Saint-Esprit un amour nouveau pour les gens autour de vous, puis vous aimeriez leur témoigner Jésus, puis... Mais il fait partie d'une secte. Ah, mais va dans ta secte. La première fois, quand j'ai été accueilli dans une fête de famille de mon côté, un de mes oncles que j'aimais beaucoup, que je respectais beaucoup, m'a dit, alors, comme j'étais déjà pasteur, et là, il m'a dit, mais comment va ta secte? Ça m'a fait mal. C'était une figure d'autorité. Mais le Seigneur, il est bon. L'année suivante, il y avait un ensevelissement dans la famille, on s'est retrouvés les mêmes membres de la famille, et puis c'est le pasteur réformé du village qui a célébré l'ensevelissement. Et puis quand il est venu boire, enfin il y avait une collation, mais dans l'intimité, dans ma famille. Et puis quand il est arrivé, il m'a vu, il savait qu'il y avait un pasteur évangélique dans la famille. Il a dit, ah, je veux aller dire bonjour à mon collègue. Merci papa, ça fait du bien. Bon, il faut que j'arrête parce que... Enfin que j'arrête, il faut que j'aille plus loin. Alors pourquoi il y a cette opposition? Je vous avais dit un petit peu la suite, on va lire la parole. En fait, cette parole de la persécution envers Timothée, elle est tirée d'un texte, c'est bon de lire un petit peu ce qu'il y a avant. Alors je vais vous proposer un petit exercice, librement. Hein. Au Proche-Orient, je suis allé plusieurs fois au Proche-Orient, j'ai découvert que contrairement à nous, en Occident, on est très individualiste, l'esprit communautaire, il est bien présent. Alors, on va lire la parole ensemble. Vous êtes d'accord, ceux qui veulent se lever, vous verrez, ça nous donne de la force. Hein? Ça va vous réveiller aussi. Je vois que certains commencent à être atteints d'un doux sommeil, c'est normal. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront... Ils seront quoi? Égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Ensuite, c'est pas fini, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Vous pouvez vous asseoir. Alors, je vais déjà vous expliquer l'étymologie en grec et en hébreu des termes. Il y a beaucoup de listes dans le Nouveau Testament un petit peu semblables à celles qu'on a vues tout à l'heure. Donc, vous imaginez cette confrontation entre le monde des ténèbres et le monde de la lumière. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les derniers temps dans la Bible, en réalité, bon, ces jours, il y a des guerres, il y a beaucoup de choses difficiles. On dit, oh, on est tout près de la fin du monde. Les derniers temps dans la Bible, les derniers jours, c'est dès l'instant où Jésus est venu, il y a 2000 ans, jusqu'à son retour. Et moi, je suis intéressé, je collabore un peu avec la Ligue pour la lecture de la Bible aussi, pour les notes dans le lecteur ou dans le guide aujourd'hui. J'ai les lecteurs de la Bible depuis 1968. Et quand je suis allé chercher des commentaires en 1968, ils voyaient déjà aussi les Russes nous envahir, enfin, c'était déjà la fin du monde. C'est pour dire, voilà. Mais ce qui est surtout important pour moi, j'ai envie de dire, vous voyez, rendez compte, l'évolution de la société, du monde dans lequel on est, c'est extraordinaire. Toutes les technologies, toutes les philosophies, tout ce que l'homme a inventé, découvert, etc. Mais il n'y a qu'une chose qu'il n'arrive pas à faire. C'est changer, transformer le cœur de l'homme. Ça, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. Mais allez faire entendre ce message autour de vous. Hein, est-ce qu'il est perçu ou pas? Mais il ne faut pas se décourager. En tout cas, il y a beaucoup de religiosité autour de nous. Moi, je suis très naïf, vous savez. J'ai entendu tellement de personnes ces dernières années qui m'ont dit qu'elles méditaient. Mais moi, au début, quand j'entendais des personnes me dire qu'elles méditaient, je disais, oh, mais c'est fantastique, Seigneur. Oh, mais on croit qu'il y a plus grand monde comme croyant. Mais après, j'ai vu ceux qui méditent, ils sont dans la forêt autour des arbres. Position de yoga. Mais où est la place de la parole de Dieu? Et quand on parle de repentance, de péché, de Jésus comme Seigneur, mais il parle de quoi celui-là? Donc j'ai dû essayer d'avoir d'autres ouvertures. Maintenant, quand quelqu'un me dit qu'il médite, j'ai visité une fois une dame dans sa maison, j'avais jamais vu autant de Bouddha au centimètre carré. Elle en avait dans le jardin, sur le piano, dans le salon. Mais c'est incroyable. Alors que ça peut traduire une recherche spirituelle. Ça, c'est le point positif. Mais après, le diable, il a la peine à lâcher des personnes qui sont là depuis des années dans cette forme de croyance. Il faut vraiment l'intercession, la prière, le combat spirituel pour que des choses bougent. Mais je sais que dans votre église, vous priez dans ce sens, n'est-ce pas? Alors, c'est bien. Là, le cœur est tortué par-dessus tout, la religio, tout tac, bon. Mais il faut prier. Vous voyez, Paul, par exemple, qui a écrit cette lettre à Timothée, il était très religieux. Est-ce qu'il connaissait Jésus? Il a dû le découvrir. C'est intéressant, hein, sur le chemin de Damas. Est-ce que Paul persécutait l'Église? Mais il persécutait qui, en réalité, surtout? Jésus, hein. Quand Paul est arrêté, Jésus lui dit « Pourquoi me persécutes-tu » Il ne dit pas « Pourquoi persécutes-tu l'Église ?» Il dit « Pourquoi me persécutes-tu » Vous vous rendez compte de la valeur qu'on a aux yeux de Dieu. Jésus vit en nous par le Saint-Esprit. Et si quelqu'un me fait du mal, le Seigneur va s'en occuper. C'est pour ça qu'on est appelé à pardonner à nos persécuteurs et à prier pour nos persécuteurs. Deuxième étape, on y va, on se lève, la suite du texte. Dans les bonnes nouvelles, vous êtes d'accord? Mais vous n'êtes pas obligé. Je ne veux pas... Ouais. C'est plus ici, d'accord. Ouais, ouais. Merci pour le coaching de Florence. Elle m'a déjà aidé à trouver l'église ce matin. J'étais paumé, mon GPS. Je ne sais pas pourquoi, je suis arrivé devant cette grande tour là-bas sur la rue principale. Puis ça m'a dit, voilà, vous êtes arrivé. J'ai dit, buddy. J'ai dit, donc, cette église, elle a les moyens, hein? Alors, l'évangile est une bonne nouvelle. De ton côté, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, ainsi que les persécutions et les souffrances que j'ai connues à Antioche, à Iconium, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés, tandis que les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal en égarant les autres et en s'égarant eux-mêmes. Voilà, vous pouvez vous asseoir. C'est quand même redoutable quand on lit ces textes, non? On est contre ce miroir qui nous renvoie des images. Relisez ces deux lettres à Timothée. La deuxième à Timothée, il est en prison à Rome. Il va bientôt mourir. Non, il va bientôt être dans la gloire. Paul. Et il sait que Timothée, qui est à Éphèse, c'était une ville de 300 000 habitants, une des plus grandes villes du monde antique, hein. Il y a eu des 1000 chrétiens. Paul est resté 3 ans là. Des milliers et des milliers de chrétiens. Et Timothée était là comme, on peut dire, pasteur, évêque de cette ville, responsable des responsables. Il avait été au contact de Paul. Et Paul avait été son mentor. Et c'est, je trouve intéressant, moi ça m'a beaucoup touché, cet aspect-là, de ce contact avec quelqu'un qui a vécu tellement de persécutions. Et Timothée venait de Lystre. Donc il avait entendu parler de Paul, qui est revenu 2 fois au moins à Lystre. Et puis il l'a vu vivre. Il était dans l'équipe avec Paul. Et il a observé son mentor et il a vu sa manière d'être, sa manière d'agir. Sa manière de dépendre du Saint-Esprit dans ces moments qui ont été si difficiles. Et si vous relisez le livre des Actes, vous voyez, et les Épîtres, hein, eh bien, il y a eu beaucoup de choses qui ont été très douloureuses dans la vie de Paul, mais il y a eu un fruit inouï qui a été porté par Paul. Et cet exemple de Paul pour Timothée, ça l'a beaucoup encouragé. Notamment parce que j'ai beaucoup aimé dans ces épîtres à Timothée, il y a le mot « honte », n'est pas « honte » de l'Évangile. C'est-à-dire quand on était mis en prison comme ça, même si c'était injuste pour l'Évangile, ben ce n'est pas évident à gérer ça. Hein. On est au niveau de notre dignité humaine. Qui est-ce qu'on met en prison, hein? C'est des voleurs, etc., hein, des assassins. Puis tout d'un coup, en croyant en Jésus, on se retrouve en prison. Tellement de chrétiens qui se retrouvent en prison en Iran, en Chine, etc. Donc, important que Timothée ait bénéficié de ce ministère de Paul. Alors, ce que j'en retire, c'est surtout ce point que je souligne maintenant, avant de terminer dans la dernière partie de ce texte. On n'a pas forcément, nous, eu des mentors à cet égard, des gens qui ont été persécutés, mais je pense qu'on a tous un peu bénéficié de pères spirituels. On a eu des gens qui ont été des figures d'autorité dans nos vies, qui nous ont certainement apporté beaucoup, qui ont contribué à nous équiper spirituellement. Et à l'égard de la persécution, pour moi, c'est une des choses les plus fortes que j'ai vécues ces dernières années dans ce domaine. C'est le privilège d'avoir pu visiter des chrétiens persécutés sur place, dans différents pays. Et le premier voyage, ça va être terrible, on entend des choses épouvantables. Puis en fait, on repart là où on a la pêche, parce que justement, on voit qu'il y a eu des bénédictions. Il ne faut pas être masochiste, hein, et ils ne le sont pas. Mais eux-mêmes le disent, à travers ces moments si difficiles, leur seule planche de salut, c'était de s'accrocher au Seigneur de toute leur force, de toute leur âme, de toute leur pensée. Et ça, c'est bien sûr, un des grands défis de l'Église d'Occident avec le matérialisme. C'est qu'on... Est-ce qu'on a vraiment besoin de Dieu, finalement? Les païens nous le disent assez quand on témoigne. « Ouais, mais mon argent, c'est moi qui le gagne. Hein, c'est moi qui y transpire, alors... » Bon, d'accord. D'où notre intérêt aussi, mais il ne faut pas le faire par intérêt. Mais vous comprenez, quand je dis intérêt, spirituellement parlant, dans les temps où nous sommes aussi, dans les combats auxquels on peut être confronté, dans les difficultés dans nos familles, etc., eh bien, de pouvoir nous inspirer de ce qu'ils vivent. Et tout à l'heure, il y a un stand de littérature. Là, je tombe bien. Vous voyez le truc, il est bien placé, bien préparé. Non, c'est pas ça. J'ai trouvé extraordinaire qu'il y ait beaucoup de livres qui ont été publiés ces dernières années avec des témoignages de chrétiens. Et c'est édifiant de pouvoir découvrir ce qu'ils ont vécu. Je vous encourage peut-être à table littérature, à acquérir l'un ou l'autre ces livres. Il y a des témoignages, il y a plusieurs bouquins là-dessus. Et puis, pourquoi pas, on est tout près de Noël, offrir peut-être un de ces livres à une personne que vous avez à cœur, qui est engagée dans sa foi. Peut-être ça pourra l'encourager aussi. Dernière ligne droite. On se lève pour le... Je me tiens à la bonne distance, ça va, Florence?
Il faut juste mettre en face.
En face, d'accord.
Non, il ne faut pas.
À côté, ça va? Non, c'est bon, d'accord. Alors, quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Voilà, vous pouvez prendre place. Bravo. Là aussi, je vais être très bref. Toute l'écriture inspirée de Dieu. C'était quoi l'écriture pour Timothée? C'était quelle lettre? Quelles lettres étaient déjà diffusées? Les évangiles, tout ça. Quelques lettres commencent à circuler. Les évangiles, c'est plus tardif. C'était l'Ancien Testament. Est-ce que vous lisez l'Ancien Testament? Non. Bon, il y a la Sainte Cène tout à l'heure. Non, mais ça interpelle quand même. J'ai rencontré beaucoup de croyants pour lesquels c'est très difficile d'aller dans l'Ancien Testament. Il y a tellement de guerres dans l'Ancien Testament. Oui, il y a des guerres, mais il n'y a pas que ça. Est-ce qu'on se nourrit de toute cette parole? Est-ce qu'on reconnaît l'autorité de toute la parole? Je l'ai dit tout à l'heure, la question de la persécution, elle est déjà dans l'Ancien Testament. Donc, au niveau des ressources, on peut aussi être béni par la lecture de l'Ancien Testament. Ensuite, j'ai envie de dire cette parole vraiment avec tout Ancien et Nouveau Testament. Est-ce qu'on réalise le privilège que c'est de l'avoir à disposition? Parce que ces chrétiens persécutés le disent. Tout d'un coup, si ça va plus mal, qu'ils sont mis en prison, s'ils n'ont pas mémorisé des textes, par exemple, s'ils ne sont pas imprégnés de cette parole, c'est beaucoup plus difficile de résister. Hein? Alors pour Timothée, j'espère que c'est le cas pour beaucoup parmi vous, vous avez certainement... Qui c'est parmi vous a grandi dans une famille chrétienne engagée, où vous avez pu aller au culte d'enfance, etc. Ouais, c'est bien 60-70%. Et pour les autres, comme moi, ben, je n'ai pas eu cette situation, mais le Seigneur a été bon, il a mis sur ma route des personnes. Alors, lire la parole. Lire la parole, pour se former, ce n'est pas seulement Timothée, oui, c'est un ministère dans la première église, mais j'entends homme de Dieu, j'aime bien cette expression. Homme de Dieu, dans l'Ancien Testament, c'est surtout les prophètes, mais j'ai envie de dire, dans le Nouveau Testament, c'est homme ou femme de Dieu, hein, ce sont les disciples, ce sont les enfants de Dieu. Est-ce que vous êtes enfant de Dieu? Est-ce que vous voulez être disciple de Jésus? Est-ce que vous prenez conscience que toute la parole est inspirée, c'est-à-dire que toute la parole, le Saint-Esprit peut nous parler, peut nous enraciner, peut nous fortifier? C'est un petit peu l'interpellation. Alors, quant à toi, tiens ferme. Frères et sœurs, tenons ferme dans ces moments qui sont des moments, je crois, difficiles actuellement pour toutes sortes de raisons. La planète semble avoir perdu la raison, mais le Seigneur poursuit un plan. Et regardons à lui. Soyez bénis. Amen.